Votre cerveau. Première saison, la perception de la réalité, avec Albert Moukébert.
Est-ce que vous entendez quelque chose dans cette ambiance de cocktail party? Je m'appelle Albert Moukébert, je suis docteur en neurosciences et psychologue clinicien et je m'intéresse à comment notre cerveau reconstruit le réel pour faire sens d'un monde qui n'en a pas toujours un. On va explorer les différentes étapes de reconstruction du réel par notre cerveau, en commençant par la première étape qui est notre perception.
Premier épisode. Votre cerveau filtre l'info, la force de l'attention.
Vous avez sûrement l'intuition que votre cerveau reçoit l'information du monde extérieur et reconstruit ce monde. Par exemple, les ondes vibratoires de l'air sont en train de toucher votre tympan. Votre tympan transforme ces mouvements de l'air en un signal électrique qui va aller dans votre cerveau et qui va être recréé. Vous allez entendre les mots qui arrivent dans votre oreille. Et on a tendance à penser que c'est comme ça qu'on fait tout. C'est ça, nos sens. Les photons de lumière touchent ma rétine, se transforment en un signal électrique et l'image apparaît. Et c'est la même chose pour le goût, le toucher, l'odorat, etc. Mais notre cerveau n'est pas juste un organe de réaction. Notre perception est une activité active où notre cerveau aussi va parfois projeter des choses qu'on connaît déjà sur le monde extérieur. Et on va explorer différentes étapes de manière auditive. Si vous connaissez un peu ce sujet, vous avez peut-être vu des illusions d'optique où on vous trompe sur la profondeur. On va essayer de faire la même chose, mais avec la voix, avec des bruits, avec des sons, pour essayer de voir comment est-ce que ce sens, qu'on met souvent de côté, qui est l'audition, joue un rôle très très important dans la manière dont on forme nos opinions, dont on agit et dont on interagit avec le monde. La première étape de ce voyage dans notre exploration du monde est donc notre perception. On a besoin de percevoir le monde pour pouvoir décider comment est-ce qu'on va agir. Notre perception n'est pas quelque chose de passif. On est en train tout le temps de traiter de l'information pour essayer de filtrer ce qui est important ou pas. La première fois que vous avez écouté ce fond sonore, vous n'avez probablement rien décelé dedans. Mais maintenant, je vais vous aider un peu pour vous montrer comment est-ce que cette perception attentionnelle fonctionne. On va réécouter la piste son et essayer de trouver le moment où vous allez entendre « J'aime bien les pattes ». Ça a marché pour vous ? Donc là, normalement, vous avez pu trouver cette phrase et séparer ce signal dans ce bruit. Mais si je vous disais qu'il y a d'autres phrases qui se cachent dans notre fond sonore, qu'il y a d'autres phrases qui sont intelligibles, qui sont dedans. Mais je ne veux pas vous influencer, et donc on va essayer de faire ça comme un jeu. On va réécouter une troisième fois cette piste sonore, essayer de trouver d'autres phrases qui s'y logent sans que je vous aide. Contrairement à ce qu'on croit, notre cerveau a en fait des ressources très limitées, que ce soit des ressources attentionnelles ou perceptives. Par exemple, ça fait maintenant quelques minutes que je vous parle, et vous serez incapable, aussi bien vous que moi, de répéter exactement ce que j'ai dit. On n'a pas des ressources exhaustives qui peuvent me permettre de voir tout ce qui se passe dans une pièce, d'entendre tous les sons. Et notre cerveau a besoin d'économiser un peu ses ressources. Et donc, il faut tout le temps faire des choix de délibération de ce qui est important ou pas. Par exemple, si je prends ces feuilles qui sont avec moi dans le studio, je les bouge, le micro très sensible avec lequel je vous parle va enregistrer ces sons. Et peut-être que vous vous dites, pourquoi est-ce qu'il bouge ces feuilles? C'est quelque chose de pas très professionnel à faire. Ça vous empêche de vous concentrer. Mais si je continue à le faire pendant un moment, petit à petit, peut-être que le son de ces feuilles va être filtré par votre cerveau. Votre cerveau a décidé que ce stimulus n'est pas quelque chose d'important. Et donc, vous allez le mettre petit à petit de côté et vous reconcentrer sur ma voix. Et vos cerveaux sont en train de faire ça tout le temps. Pas seulement avec les bruits, parce que vous êtes sûrement dans un environnement maintenant sonore, on l'est très très souvent, mais aussi avec notre vision, avec notre corps, le toucher, etc. Par exemple, quand vous vous réveillez le matin et vous enfilez votre pantalon, sentez le pantalon sur votre corps, et petit à petit, même quelques secondes après, cette sensation disparaît. Votre pantalon est encore là, mais votre cerveau, pour libérer un peu de la place attentionnelle, si on peut utiliser cette métaphore-là, va mettre de côté tous ces sentiments. Je suis assis sur une chaise, la sensation de la chaise sur mon corps, c'est quelque chose qui va se fondre. Et uniquement les choses pertinentes vont émerger pour qu'on puisse commencer à interagir avec le monde. Une autre expérience sonore qu'on va entendre ensemble, elle s'appelle l'expérience des mots fantômes de Diana Dutch, qui est une psychologue britanno-américaine qui travaille énormément sur le son et notamment la psychologie de la musique. On va écouter cette expérience, et il faut savoir que dans cette expérience des mots fantômes de Diana Dutch, vous avez deux pistes qui sont en stéréo, dans lesquelles il y a deux mots, deux séquences, deux syllabes qui sont répétées en permanence. La première fois que vous allez écouter cette expérience, vous allez sans doute rien comprendre. Votre cerveau va avoir un peu de mal à filtrer l'information. Et dans un deuxième temps, on va éteindre une de ces deux pistes sonores. On va vous laisser juste une oreille et vous allez entendre des mots et on en reparle juste derrière. Peut-être que certaines personnes d'entre vous ont réussi à entendre quelques mots ou quelques phrases même dans cette cacophonie auditive. Mais regardez ce qui se passe une fois qu'on éteint une de ces pistes. Je sais pas pour vous, mais moi j'entends le mot no way, no way, no way, no way, no way, no way, no way. D'autres personnes apparemment entendent le mot bueno, d'autres encore le mot Rogan. Sur le site de Diana Dutch, il y a une liste de mots que des personnes peuvent entendre. Peut-être que certaines d'entre vous sont capables d'entendre ces mots, alors même qu'il y a tout le fond sonore, toute la cacophonie initiale. Moi, personnellement, par exemple, j'y arrive pas. J'ai besoin d'éteindre une des pistes pour pouvoir entendre ce no way, no way, no way, no way. Et quelque part, votre cerveau est tout le temps en train de faire ce traitement. C'est comme si votre cerveau est en train d'isoler cette piste tout seul. Peut-être que pour cette tâche-là, certains d'entre vous, certaines d'entre vous, comme moi, n'y arrivent pas. Mais dans la vie quotidienne, notre cerveau est tout le temps en train de filtrer, tout le temps en train d'éliminer plein d'informations qui peuvent nous toucher. Et donc, ces ressources cognitives limitées, la manière dont on doit faire des délibérations en permanence, est importante, parce que peut-être parfois, mon cerveau va éliminer une information qui, en fait, est très importante. Et donc, ces mécanismes de filtrage attentionnel et perceptif qu'elle s'adonne mon cerveau en permanence fonctionne d'habitude très très bien, mais parfois c'est quelque chose qui peut nous toucher de manière assez négative. Et donc c'est important de garder en tête tout le temps qu'on n'a jamais accès à toutes les informations qui nous sont disponibles, même d'un point de vue perceptif. On parlera dans les prochains épisodes de l'interprétation, du contexte, de nos a priori. Mais avant même d'arriver à ces fonctions cognitives de haut niveau, entre guillemets, même d'un point de vue perceptif, d'un point de vue de l'acquisition de l'information du monde par nos sens, on est déjà en train d'avoir cette approche active, de filtrage, d'élimination de certaines informations, sans même le réaliser, alors même que ces informations peuvent être très pertinentes pour nous. Et donc, on vient de voir dans ces deux expériences, que ce soit les mots fantômes de Diana Dutch ou l'effet cocktail party, que notre perception est quelque chose qui est actif, qu'on est souvent en train de mettre de côté des informations qui peuvent être importantes, sans même s'en rendre compte. Et déjà, à cette étape de filtrage perceptif, on peut avoir des conséquences assez importantes. Vous avez sans doute peut-être entendu parler de ce qu'on appelle l'effet tunnel, cet effet dans lequel on peut se retrouver quand on est à vélo, en train d'écouter de la musique avec un casque. Et pourquoi ça pourrait être dangereux? Parce que je pourrais être sur mon vélo, en train d'écouter de la musique, de chanter ma chanson à tue-tête, et mon cerveau, dans ce mécanisme de filtrage attentionnel, va ne pas voir la voiture qui arrive sur le boulevard et qui risque de me renverser et de coûter ma vie. Donc c'est important de prendre conscience de ces effets actifs dans notre construction du réel, qui a des choses qu'on est tout le temps en train d'éliminer, que pour la majorité du temps, ces choses ont besoin d'être éliminées pour qu'on puisse fonctionner, mais que parfois, on élimine des choses qu'on ne devrait pas, et ça pourrait avoir des conséquences assez importantes. Et donc, on vient de voir comment notre cerveau est tout le temps en train de filtrer les informations, de séparer ce signal du bruit permanent dans lequel on baigne. Une fois qu'on a fait ce travail de filtrage, une même information peut avoir plusieurs sens. Parfois, on nous dit quelque chose et on le comprend différemment de ce qu'on nous dit. On appelle ça la réduction de l'ambiguïté. On verra l'importance de cette stabilisation du réel au prochain épisode.
Deuxième épisode. Votre cerveau stabilise l'ambiguïté, l'importance de l'interprétation.
Ce que vous venez d'entendre s'appelle la gamme de Shepard, en anglais le Shepard Tone, pour ceux qui voudraient le réécouter. Vous avez eu l'impression d'avoir une note qui monte jusqu'à l'infini. J'y vous disais que c'était pas vrai, que cette note, elle est juste en train de faire une boucle sur elle-même. La gamme de Shepard est sans doute une des illusions auditives les plus connues pour ceux qui s'intéressent aux différentes illusions perceptibles qui peuvent toucher nos cerveaux. C'est l'équivalent un peu auditif d'illusions d'optique que vous connaissez tous, des deux visages qui peuvent aussi être perçus comme un vase. Notre cerveau n'a pas une sorte d'oreille musicale absolue. D'ailleurs, s'il y a des auditeurs qui ont une oreille musicale absolue, pour vous, la gamme de Shepard ne fonctionne pas. Notre cerveau est tout le temps en train de faire des opérations pour essayer de comprendre la perception qu'il est en train d'avoir. Si au premier épisode, on a vu comment est-ce qu'on est en train de filtrer l'attention, à cette deuxième étape de notre construction du monde, on va commencer à mettre de soi dans le monde. Notre cerveau va comparer nos modèles mentaux préexistants, ce qu'on sait sur les sons, sur la musique, sur ce qu'on voit, sur l'information à laquelle nous sommes confrontés, et la mettre en exergue avec ce qu'on appelle nos a priori, ce que je sais du monde. On a tous des a priori sur les gammes de musique, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et dans la gamme de Shepard, on va utiliser des sortes de tours de passe-passe auditifs pour vous donner l'illusion de cette gamme qui monte en infini. Peut-être qu'on pourrait la réécouter. Vous avez sans doute remarqué que cette deuxième écoute est un peu différente de la première. La première, c'est la gamme de Shepard dans une sorte de mode continu. Et la deuxième, c'est une version chromatique sur un piano. Et peut-être que la note semblait monter un peu moins que la première. Parce que dans la version un peu plus chromatique, on peut après commencer à déceler comment ça marche. Et comment ça marche, c'est quelque chose d'assez simple. Au final, je ne suis pas expert en théorie musicale, mais on est juste en train de superposer les octaves d'une même note avec une note fondamentale. Et quand on arrive au bout de la gamme, ben on retourne en arrière. Et donc, ça nous donne cet effet d'une gamme qui se boucle sur elle-même. Pour notre cerveau, ça fait une sorte de continuité, alors même qu'encore une fois, il n'y a rien qui est en train de monter en permanence, il n'y a pas cette continuité, c'est une illusion auditive. Mais notre cerveau va réduire son ambiguïté, va faire sens en donnant l'impression qu'elle monte en permanence. Cette réduction de l'ambiguïté est très très importante pour la manière dont on interagit avec le monde. Vous avez sans doute été exposé à des réductions d'ambiguïté visuelle, par exemple. Un équivalent qui a fait un peu le tour sur Internet il y a quelque temps, c'est la robe que certaines personnes pouvaient voir comme blanche et dorée ou bleue et noire. Et on a l'équivalent de cette stabilisation avec un peu plus de sens que la gamme de Shepard aussi de manière auditive. Donc je vais vous proposer un autre enregistrement sonore et après on en reparle. Peut-être que vous avez entendu des mots. Je vais un peu vous influencer maintenant. En fait, cette piste sonore, on peut soit entendre le mot brainstorm, soit les deux mots green needle. Donc déjà, c'est deux mots qui n'ont pas les mêmes syllabes, green needle et brainstorm. Dans un cas, un mot et dans l'autre, deux mots. Donc brainstorm et green needle. On n'est même pas du tout sur les mêmes sonorités, mais on peut écouter les deux. Donc on va repasser l'extrait, essayer la première fois de penser au mot brainstorm, deuxième green needle, et je vais essayer de vous aider. Brainstorm. Green needle. Brainstorm. Ce qui est intéressant avec cette illusion, c'est qu'elle part d'un jeu d'enfance. C'est un petit jeu sur lequel vous appuyez et vous avez ce son qui apparaît et qui a été découvert par hasard. Mais il suffit juste qu'on pense à ce mot pour qu'on puisse l'entendre. On appelle ce genre de stimuli des stimuli ambigus. Et dans le cas de cette piste sonore, on appelle ça des stimuli ambigus bistables. Ils sont bistables parce qu'on peut les stabiliser de deux manières différentes. Si je pense à Green Needle, je vais écouter Green Needle. Et si je pense à Brainstorm, je vais pouvoir entendre Brainstorm. Et ces réductions de l'ambiguïté donc, sont en train de s'opérer avec ce qu'on appelle mes a priori. Si j'ai un certain a priori, je vais stabiliser l'ambiguïté de ce stimulus bistable de cette manière. Pourquoi est-ce que cela est très important dans notre fonctionnement? Parce que si cette piste sonore est ce qu'on appelle un stimulus ambigu bistable, le réel est ce qu'on appelle un stimulus ambigu multistable. Que la réalité est ambiguë de manière inhérente, qu'on est tous en train de la stabiliser en permanence avec nos a priori. Certains philosophes vont même jusqu'à dire qu'il y a autant de manières de stabiliser l'ambiguïté du réel qu'il n'y a d'individus. En gros, que c'est ça qui fait votre unicité. Vous êtes unique comme tout le monde, et cette unicité, c'est la manière avec laquelle vous stabilisez l'ambiguïté du réel. Par exemple, quand on décrit un trait de personnalité de quelqu'un, on pourrait arguer qu'on est en train de décrire la manière dont une personne stabilise l'ambiguïté du réel. Par exemple, imaginez qu'une personne est jalouse. Qu'est-ce que ça veut dire être jaloux? Être jaloux, c'est une description d'une certaine réduction de l'ambiguïté dans certaines interactions sociales. Par exemple, imaginez que moi je suis jaloux, c'est mes a priori, ça fait partie de qui je suis, donc mes a priori c'est tout ce qui fait qui je suis, mes opinions, mes croyances politiques, religieuses, mon tempérament, ma personnalité, mes potes, etc. Imaginez que je suis jaloux, je prends mon téléphone, j'appelle la personne avec qui je suis en couple et cette personne ne répond pas. Elle ne répond pas, c'est un stimulus ambigu. Il y a des informations qui me manquent, je ne sais pas pourquoi elle ne répond pas. Et donc mon cerveau a besoin de stabiliser cette ambiguïté, et je vais stabiliser cette ambiguïté en me disant que cette personne me trompe. Être jaloux, c'est une description de la manière dont je vais stabiliser une ambiguïté d'une interaction sociale. Ne pas être jaloux, c'est j'appelle la personne, elle ne répond pas, et par exemple je vais me dire « Ah, elle est occupée », et passer à autre chose. Et on peut faire ça sur plein de traits de personnalité. Un optimiste, c'est quelqu'un qui stabilise l'ambiguïté du futur sur un registre positif. Un pessimiste, c'est quelqu'un qui stabilise l'ambiguïté sur un registre négatif, par exemple. Et on est tous tout le temps en train de stabiliser l'ambiguïté, parce que, comme on l'a vu dans notre premier épisode, on n'a pas les ressources nécessaires pour pouvoir avoir accès à toutes les informations qui existent. La majorité du temps, on ne réalise même pas qu'on est en train de stabiliser cette ambiguïté. C'est comme ça qu'on peut se retrouver, par exemple, à discuter d'une même situation et avoir des opinions très différentes, et chacun va dire à l'autre « mais les faits c'est quoi ?» Mais parfois, les faits mêmes sont ambigus. Et donc, c'est important de garder en tête qu'on est tout le temps en train de mettre de soi dans la manière dont on perçoit le monde. On ne reçoit pas le monde d'une manière passive. On reçoit des informations partielles, des informations partiales, et on met de soi pour pouvoir leur donner du sens. Donc la prochaine fois que vous êtes face à une situation où vous êtes en désaccord avec quelqu'un, demandez-vous, est-ce que je suis en désaccord parce qu'on a des désaccords sur le sujet, ou est-ce qu'on est en désaccord parce qu'on est en train de stabiliser l'ambiguïté de différentes manières parce qu'on a des a priori qui sont différents? Et donc quelque part, dans ces mécanismes de réduction de l'ambiguïté, vu qu'on est en train de mettre de soi dans ce qu'on entend, dans ce qu'on voit, on pourrait dire qu'on ne voit pas le monde tel qu'il est, qu'on n'entend pas le monde tel qu'il est, mais on l'entend un peu tel que nous sommes. Que notre cerveau est en train de prendre ses a priori et de les mettre sur des situations qui sont propices à cette ambiguïté, qui encore une fois est inhérente dans toutes les interactions sociales. Quand vous êtes en train de lire un article, par exemple, vous êtes en train de lire un article sur une actualité, il n'y a pas toute l'histoire d'un pays quand vous êtes en train de lire. Il y a plein de choses qui manquent que vous allez compléter avec l'information qui vous vient en tête. Mais attention, cette notion de on n'entend pas le monde tel qu'il est, mais on l'entend tel que nous sommes, il ne faut pas tomber dans l'autre extrême qu'on est tous en train de reconstruire notre propre monde, comme on peut le trouver dans certains courants de bien-être ou de développement personnel ou autres pensées un peu magiques. Évidemment que le monde est important. Plus une situation est ambiguë, et plus on peut lui attribuer le sens qu'on veut, et moins une situation est ambiguë, et plus je suis obligé de l'accepter pour ce qu'elle est. Si je stabilise l'ambiguïté d'une personne qui me plaît dans un bar, en me disant « ah bah voilà, je lui plais aussi, je vais lui parler, elle me dit que je la dérange », il faut que j'accepte que ma stabilisation de l'ambiguïté était fallacieuse. Et donc il y a une interaction entre deux facteurs en permanence. Ma stabilisation de l'ambiguïté avec mes a priori, mais aussi le contexte même de la situation dans laquelle je me trouve. Et il y a tout le temps cette tension entre mon cerveau qui crée un monde et le monde qui s'impose à mon cerveau. Au prochain épisode, on verra l'importance de ce contexte dans ces opérations de recréation du monde.
Troisième épisode. Votre cerveau interprète la réalité, la prise en compte du contexte.
C'est inquiétant, non? D'entendre quelqu'un crier tout d'un coup. Est-ce que vous pensez que vous aurez eu la même émotion si on joue la même piste son avec un autre fond sonore? Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous? Est-ce que vous avez senti un peu plus d'angoisse? Un peu moins? Est-ce que l'émotion qui vous traversait était différente? Peut-être pas. Dans les deux cas, c'était quelque chose d'assez anxiogène. Mais si on fait passer ce son une troisième fois, qu'est-ce que ça ferait pour vous? C'est un peu plus drôle, là, non? Dans les trois cas, vous avez entendu le même cri. C'est juste que le premier cri est sans contexte, ce qui est assez troublant d'entendre quelqu'un crier comme ça, à partir de rien. Dans le deuxième, on a placé ce cri dans une scène d'horreur. Donc, c'était un peu plus angoissant. On entend des crissements de portes de bois. Et dans le troisième extrait, là, c'était assez marrant. Une montagne russe, ou des gens qui crient parce que ils sont excités de cette frontière très floue entre la peur et la trépidation, où on sait qu'on est en sécurité, mais en même temps, on l'est pas vraiment. Le contexte va changer la valence avec laquelle vous allez évaluer une information. Essayez de reconnaître la mélodie suivante. Peut-être que vous avez aucune idée de ce que c'est, sauf si vous avez encore une fois une oreille musicale absolue. Ceux qui ont ça, c'est un peu de la triche. Mais en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste changé les gammes des notes, donc la manière comparative dont ces notes fonctionnent ensemble. On va réécouter maintenant cette même musique avec un lien d'appareillage des notes entre elles qui soit adéquat pour que vous puissiez la reconnaître. Et là, ça devient beaucoup plus clair. Cette expérience s'appelle la mélodie mystérieuse et on la doit encore à Diana Dutch. Notre cerveau fonctionne de manière comparative et la musique se base sur ce principe de l'appareillage des notes entre elles pour qu'une mélodie soit reconnue. C'est pas juste une question de quelles notes on joue. Encore une fois, dans les deux cas, c'est les mêmes notes qui sont jouées. C'est juste qu'on est en train un peu de déplacer les gammes. Alors, notre cerveau est tout le temps en train de faire ces opérations de comparaison. Même d'un tout petit âge, on fait ce qu'on appelle des catégorisations. On met les carrés avec les carrés, les ronds avec les ronds, les triangles avec les triangles. Ça nous permet d'avoir un peu d'ordre dans le monde, de pouvoir comprendre comment ça marche. Cette importance du contexte est cruciale parce que on a souvent une vision individuée du fonctionnement de la société. On veut essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'une personne pourrait croire aux fake news, pourquoi est-ce qu'une personne ne veut pas prendre un médicament qui pourrait lui sauver la vie. Pourquoi est-ce qu'une personne pourrait faire un comportement qui, pour nous, a l'air d'être complètement irrationnel? Souvent, ces explications à ces phénomènes ne dépendent pas de l'individu, mais dépendent de leur contexte. Notre cognition est incarnée. On a tendance à croire que mes pensées sont juste le fruit de mon cerveau. Mais de plus en plus de recherches semblent indiquer qu'on ne peut pas vraiment comprendre le fonctionnement du cerveau en observant le cerveau. Le cerveau est incarné dans un corps, et ce corps est incarné dans un contexte. Et c'est important d'observer le cerveau un peu dans son milieu naturel pour pouvoir le comprendre. Si j'entends une information qui me dit que un certain milliardaire a pris son jet privé pour faire, je sais pas, un Paris-Marseille, et qu'on me demande en permanence de faire des efforts parce que la planète est en danger, voire l'espèce même est en danger, bah contextuellement, il y a quelque chose qui cloche. On appelle ça des injonctions paradoxales, quand on dit à quelqu'un de faire quelque chose et son contraire. On l'a peut-être un peu vu pendant la pandémie, par exemple. On nous disait de ne pas sortir de chez nous, mais d'aller voter, de mettre le masque et de ne pas mettre le masque en même temps. Ces signaux contextuels sont parfois plus importants que l'individu, que d'observer mes croyances et mes données. On est tout le temps en train de subir une sorte de pression de ces informations contextuelles. Et cette importance contextuelle a même des conséquences dans mon travail même, d'un point de vue formel, dans les recherches en neurosciences. Par exemple, en neurosciences, on utilise souvent des IRM fonctionnels pour essayer de comprendre comment fonctionne le cerveau. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais toutes les recherches qui sont faites en IRM, c'est des individus, des enregistrements de cerveau d'individus allongés dans un laboratoire, dans une machine à IRM. On n'a aucune idée de ce qui se passe dans le cerveau d'un humain quand il est en rencard amoureux dans un bar, quand elle est dans le métro, en train de faire son trajet le matin pour aller au travail. Et on pense qu'on arrive à une sorte d'impasse théorique, où on n'arrive plus vraiment à mieux comprendre le cerveau, justement parce qu'on l'étudie déconnecté de son contexte. Cette notion de cognition incarnée, que j'ai besoin de comprendre le fonctionnement d'une personne, le fonctionnement de son cerveau, mise en exergue avec l'état de son corps, et ce corps qui est incarné dans ce contexte, cette triptyque du cerveau, du corps et de l'environnement, est centrale si vous voulez réfléchir à pourquoi quelqu'un fait quelque chose. Quand notre cerveau nous trompe un peu, on appelle ça des biais cognitifs. Et peut-être le biais le plus important dans notre cognition s'appelle le biais fondamental d'attribution. C'est un biais qui fait que, par exemple, si moi je réussis quelque chose, c'est grâce à moi. Et si quelqu'un réussit quelque chose, je vais juger grâce à cause de son contexte, il a eu de la chance. Inversement, si moi je loupe quelque chose, ben c'est la faute à pas de chance. Et si quelqu'un loupe quelque chose, je vais attribuer son erreur à lui. Par exemple, imaginez que je suis en train de conduire et quelqu'un me change de fil sur le périph 100 mètres de clignotant, je vais me dire « Ah, c'est vraiment un mauvais conducteur, etc. » Et si un jour, moi, je fais la même chose, je vais me dire « C'est pas grave, je suis en retard, qu'on me lâche un peu la grappe, etc. » On a tendance à être un peu de mauvaise foi avec les autres et de bonne foi avec nous-mêmes. Et ces jeux de bonne foi et de mauvaise foi se joue souvent dans la situation dans laquelle je me trouve. Je peux m'inventer des excuses et essayer de trouver des raisons pour dire pourquoi je suis meilleur que les autres. Cette contextualisation des informations peut être évidente, mais elle a des conséquences assez importantes sur la manière dont on pense la société. Parce que très souvent, on ne va pas prendre en compte les différents facteurs qui sont en train de rentrer en jeu quand je suis en train de penser une problématique. Et probablement, c'est la problématique qui illustre le mieux cela, c'est la problématique climatique. Je travaille pas mal sur ce sujet, et souvent on va me poser des questions en disant « Mais pourquoi Albert, pourquoi est-ce qu'on ne fait rien ?» Et souvent c'est parce qu'on ne regarde pas le contexte. On a par exemple des normes sociales. Si moi je veux changer mon régime alimentaire, et donc je veux manger moins de viande. Mais si tout, à chaque coin de rue dans ma ville il y a des McDo, et que la cantine végane est à 6 arrêts de métro, ce serait de mauvaise foi d'essayer de comprendre mon comportement en m'observant juste moi, et en oubliant l'offre qui existe un peu autour de moi. Ce serait irréaliste de me dire « Albert, c'est ta responsabilité de tous les jours, quand tu veux manger, d'aller faire 6 arrêts de métro de ton lieu de travail pour manger quelque chose qui soit plus éco-responsable. » Les normes sociales, l'offre disponible, le contexte dans lequel on se trouve, parfois est plus important pour comprendre pourquoi un individu ou une personne est en train d'agir de la manière dont elle agit que ce qui se passe à l'intérieur de son cerveau même. Et donc la prochaine fois que vous êtes en train de réfléchir à un problème de société ou que vous ne comprenez pas comment est-ce que quelqu'un pourrait agir de la sorte, demandez-vous, est-ce qu'il n'y a pas des facteurs qui soient extérieurs à elle, qui sont en train de l'influencer, de la pousser d'une manière ou d'une autre? D'ailleurs, cette importance du contexte a même donné lieu à une nouvelle discipline qu'on appelle l'architecture du choix. Comment est-ce qu'on va agencer l'environnement d'un groupe d'humains pour les pousser vers certains comportements, comme les passages piétons qui nous indiquent où est-ce qu'on peut traverser la rue, à des choses un peu plus sournoises, qui peuvent nous pousser, par exemple, à voir dans le métro en permanence des panneaux publicitaires qui nous matraquent du dernier vol à 35 euros aller-retour Paris-New York, alors qu'on est en train d'essayer de faire des efforts pour prendre moins l'avion. Il faut tout le temps savoir comment est-ce qu'on va peser la responsabilité individuelle versus la responsabilité contextuelle. C'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à faire, mais qu'il ne faut jamais perdre de vue. Si on veut avoir une chance de faire face aux défis qu'on affronte et qu'on devra affronter. Jusque-là, on a vu 3 étapes dans notre recréation du réel. On perçoit en filtrant, on stabilise l'ambiguïté, on interprète de manière contextuelle et comparative. Mais dans ces mécanismes de fonctionnement, on part du principe qu'on est en train d'avoir une vision cohérente du monde, qu'on a les différents éléments qui sont en place. Au prochain épisode, on verra que c'est pas vraiment le cas, que notre cerveau est une sorte de machine à remplir le vide, qu'on est en train de boucher des trous dans nos raisonnements, dans nos perceptions. On verra quelles sont les conséquences de ces fonctions-là.
Quatrième épisode. Votre cerveau remplit le vide.
Peut-être avez-vous reconnu l'extrait qui vient d'être diffusé, alors qu'on a retiré pas mal de notes. Pour ceux qui n'ont pas réussi, voici la version complète. Lettre à Élise de Beethoven. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on avait retiré une bonne partie de cette mélodie dans le premier extrait, et vous avez réussi quand même potentiellement à le réécouter. Et maintenant que vous avez entendu la musique intégrale, si on réécoute la musique à trous, vous allez le réussir encore mieux. Votre cerveau va remplir le vide, parce que c'est quelque chose que vous connaissez. Et on remplit énormément de trous, énormément de vides dans notre vie quotidienne. Par exemple, si vous fermez les yeux et vous imaginez votre dernier trajet en transport en commun, ou même votre dernier trajet en voiture, ou même à pied. Moi, pour cette expérience, je vais prendre mon dernier trajet de métro pour venir au studio aujourd'hui. C'était tôt le matin, donc la rame est bondée. Et dans ma tête, je vois des personnes. Ces personnes ont des visages, ces personnes ont des habits. Je vois les gens qui attendent sur le quai. Mais je sais aussi que quand j'étais dans le métro, j'étais sur mon téléphone en train de choisir quelle musique je veux entendre, en train de répondre aux messages matinaux des potes qui se réveillent très tôt. J'étais pas en train de regarder le visage des gens, j'étais pas en train de regarder leurs habits. Mais pour des raisons de cohérence, mon cerveau va inventer des visages à ces inconnus, va les habiller d'une certaine manière, de la manière la plus adéquate, qui considère les habits que les gens portent dans le métro parisien, le matin, un jour de semaine. Pour des raisons de cohérence, notre cerveau nous invente un monde en permanence, en bouchant les trous qui manquent à notre perception. Et ce processus de remplir le vide se passe à notre insu. On le fait dans nos souvenirs, mais on le fait aussi dans le présent, on le fait pour le futur. On le fait même pour notre mémoire autobiographique. Un chercheur qui travaille sur la notion de self, le moi, qui s'appelle Stan Klein, relève quelque chose qui peut paraître assez basique et en même temps très surprenant au niveau de notre capacité à remplir le vide. Et il appelle ça le paradoxe de la continuité du soi. Par exemple, moi j'ai presque 40 ans, mais j'ai pas des souvenirs de mon existence sur la planète, tous les jours, toutes les minutes, depuis que je suis né. Par exemple, si vous me demandez, Albert, est-ce que tu aurais un souvenir de ce que tu faisais le 12 avril 1994? Ben, j'ai peut-être aucun souvenir de toute l'année 1994 ou 1995. Mon cerveau accepte que j'existais pendant cette période. Stan Klein appelle ça en anglais le evidenceless continuity of the self, qu'on peut traduire par la continuité du soi sans preuve. On n'a aucune preuve qu'on a toujours été là, mais on ne se réveille pas le matin en se disant « Merde, j'ai pas de souvenir d'un jour ou de deux heures de la semaine passée. Peut-être que j'ai été kidnappé, mis dans un coma artificiel et réveillé deux heures plus tard. » On accepte ces trous parce que très très souvent, on n'y pense pas. D'ailleurs, ce remplissage de vide, vous l'avez sans doute tous vécu quand vous êtes au téléphone, par exemple, et que ça capte pas très bien. Vous avez des mots qui sautent, mais vous arrivez à peu près à comprendre. Parfois même pas à peu près, parfois même à comprendre parfaitement ce qui est dit. Parce que ce remplissage de vide ne se fait pas juste d'un point de vue perceptif. C'est important pour moi que je ne vous transmette pas l'information de manière erronée à croire que c'est juste du remplissage perceptif. Genre j'ai des mots qui me manquent et je peux les comprendre. On fait aussi parfois des inférences. On bouche des trous même au niveau des raisonnements, au niveau de la manière dont on pense un sujet. Et donc, je vais vous proposer une expérience, je vais vous raconter un scénario. On va faire les deux choses en même temps. On va faire des inférences tout en masquant des mots. Donc je vais vous raconter une histoire. Et on va gommer certains mots en mettant une sorte de vibreur. Donc imaginez cette histoire ensemble. Il y a un homme qui est chez lui et qui est très très pressé. Il essaye de chercher ses un peu partout mais il les trouve pas. Il cherche ses sous le lit, il cherche ses dans ses poches, il cherche ses dans les tiroirs. Il n'arrive pas vraiment à sortir de chez lui, sinon il serait coincé dehors. Il ne pourrait pas re-rentrer tant qu'il n'a pas trouvé ses Qu'est-ce que cette personne cherche? Dans cette expérience, on a enlevé le mot de l'objet qui est perdu. Mais vous avez sans doute tous et toutes réussi à inférer le mot-clé. Que cette personne cherchait ses clés, parce que si elle sort, elle ne peut pas rentrer. C'est évidemment les clés de sa porte. Ces inférences, on les fait tout le temps de manière automatique. Mais parfois, on fait des inférences erronées. Et ne pas même réaliser qu'il y a des trous, qu'il y a des vides dans ma compréhension, dans ma connaissance, dans ma perception, dans mes interactions avec les autres, peuvent avoir des conséquences qui peuvent être assez importantes, même d'un point de vue sociétal. Imaginez que vous êtes en train de regarder un documentaire à la télé. Peut-être que la personne qui a réalisé ce documentaire a éditorialisé le contenu, a laissé de côté certaines informations. Vous n'allez pas réaliser que ces informations ne sont pas là. Pour deux raisons. La première, c'est que peut-être que vous n'y avez pas accès. Mais la deuxième, surtout, c'est parce que votre cerveau va créer cette narration en permanence. En fait, notre cerveau fonctionne un peu comme un conteur d'histoire, comme un réalisateur de film. On a une sorte de narrateur en permanence dans nos têtes qui va monter, découper, mixer le réel. Si je reprends mon trajet pour venir de chez moi jusqu'au studio, je me souviens que je me suis réveillé, puis je suis sorti de chez moi, je suis monté dans le métro, je suis arrivé au studio. Il y a comme ce qu'on appelle des cuts. Vous voyez, quand vous regardez un film, vous voyez le personnage principal qui monte en voiture, cut. Il arrive à destination, cut. On ne sait pas ce qui se passe entre ces deux scènes. Et notre vie fonctionne un peu de la même manière. D'ailleurs, s'il y a des auditeurs qui sont intéressés par cette capacité narrative du cerveau, il y a un livre qui est sorti l'année passée qui s'appelle « Le cinéma intérieur » de Lionel Nakache, que je peux vous recommander sur le sujet. Cette narrativité, ce remplissage de vide, avec des temps qui sont plus forts et d'autres plus faibles, viennent conditionner aussi la manière dont on vit en société et a des conséquences assez importantes sur des problématiques sociétales. Par exemple, si vous avez une certaine opinion politique, vous allez peut-être vous souvenir un peu plus d'une information qui vient confirmer votre opinion politique et vous allez laisser un vide à une information qui vient la contredire. Vous allez créer des généralisations à partir de preuves anecdotiques et vous allez mettre de côté une montagne de preuves parce qu'elle va à l'encontre de ce que vous voulez. On peut remplir des vides, mais aussi on peut en créer, on peut enlever des informations. On a une relation très active avec la manière dont on délibère quelles informations sont acceptables, quelles informations ne nous vont pas et donc on va les réécrire, et quelles informations on va complètement créer parce qu'il y a des trous dans nos perceptions, parce qu'il y a un peu de vide dans la manière dont on pense le monde. D'ailleurs, cette capacité du cerveau à boucher les trous est hyper utile. Ça nous permet de pouvoir se comprendre alors que peut-être qu'on n'entend pas à chaque mot qu'on dit. Par exemple, quand vous êtes au téléphone, parfois le réseau ne capte pas hyper bien. Mais vous n'êtes pas obligé de tout le temps faire répéter à une personne. Vous arrivez à comprendre à peu près le sens de ce que je viens de dire. Parfois, c'est même assez impressionnant. Vous êtes en voyage dans un pays où vous ne parlez pas la langue, mais vous arrivez à déduire ce qu'une personne vous a dit dans une langue qui vous est étrangère. Vous allez étoffer avec l'information autour. On revient à cette importance du contexte qu'on a vu dans l'épisode d'avant. On revient à l'importance de la réduction de l'ambiguïté. On commence à voir comment ces différentes étapes qu'on a vues jusqu'à maintenant coalescent ensemble pour nous donner cette richesse de notre vie. On est en train de filtrer l'information, de stabiliser l'ambiguïté, d'interpréter ces informations et de leur donner une sorte de direction, de narrative. Et s'il y a des informations qui manquent, ben tant pis, on fera avec. Une fois qu'on a vu cette séquence, il nous reste encore quelques opérations mentales pour qu'on puisse avoir une vision un peu plus complète. Et dans les 4 épisodes que vous venez d'écouter, j'espère, j'ai utilisé pas mal de fois le mot « a priori ». Ces a priori qui viennent de vos expériences passées, de votre trait de personnalité, de vos opinions politiques, de vos opinions religieuses, de vos opinions sociétales, morales et éthiques. Et on va voir que ces a priori ne sont pas figés. Que notre passé n'est pas, que notre passé est tout le temps en devenir. Et au prochain épisode, on parlera de ce phénomène assez intriguant qu'on appelle les faux souvenirs.
Cinquième épisode. Votre cerveau reconstruit le passé, le faux souvenir.
That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police.
Assassin de la police. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui est dit? Cette chanson de KRS-One, sortie en 93 et qui a été remixée par DJ Codekiller en 95 pour le film La Haine, on l'a tous chantée, criée à tue-tête. en étant convaincu que ça dit « assassin de la police ». On pourrait écouter la version de la haine. Quand on rajoute NTM à KRS-One mixé par DJ Cut Killer, on a vraiment l'impression d'entendre Assassin de la police, alors que la chanson dit en fait « That's the sound of the police », c'est le son de la police. Maintenant qu'on a écouté la version remixée, je vous propose qu'on réécoute la version originale de KRS-One, « The sound of the police ».
That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police.
Il n'y a plus d'assassin de la police. On a parfois des faux souvenirs. On se souvient parfois mal de ce qu'on a vécu. Notre cerveau ne fonctionne pas du tout comme un appareil photo. Encore moins comme un ordinateur ou comme un disque dur. Vos souvenirs ne sont pas stockés dans des fichiers quelque part où vous allez les revisiter. Le passé existe dans le présent. Une des plus grandes chercheuses sur les souvenirs s'appelle Elisabeth Loftus. Et Loftus explique que c'est toujours le sujet présent qui se remémore. Qu'à chaque fois que vous allez revisiter un souvenir, vous allez le recolorier avec la personne que vous êtes aujourd'hui. On est tous en train de parfois embellir le passé ou le rendre plus négatif quand on souffre par exemple de certains troubles psychologiques. On a l'impression qu'on est nul, je suis allé à une soirée et ça s'est mal passé. Et je rentre chez moi en me disant que ça s'est mal passé, alors que la soirée, peut-être, dans les faits, était assez cool. Par exemple, moi, j'ai fait ma thèse sur une pathologie qui s'appelle la phobie sociale. Et dans la phobie sociale, on a peur du jugement des autres, et on a tendance à se raconter, après coup, que nos interactions sociales ont été vécues très négativement par les autres, que les gens ne nous trouvent pas intéressants, qu'ils ne vont pas me réinviter à la prochaine soirée. Et tout ça, je vais le réécrire quand je suis chez moi, après la soirée, en train de refaire le film. En fait, le film est malléable. On a des faux souvenirs personnels, mais par exemple, l'assassin de la police, c'est des souvenirs qui sont un peu collectifs. On appelle ça les effets Mandela. C'est un mot qui a été donné à ces effets par Fiona Broom en 2009, quand elle a créé un site pour parler de ce phénomène. Et ça s'appelle comme ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensaient, à tort évidemment, que Nelson Mandela était mort en prison dans les années 80, alors qu'on sait qu'il est mort bien plus tard, en 2013, après qu'il soit sorti et eu une seconde carrière politique, où il a été devenu président de l'Afrique du Sud. On va écouter un autre extrait d'un effet Mandela musical, qui cette fois nous vient de Queen, « We are the champions ». Est-ce que vous avez chanté Off the World tout seul? Eh bien, cette phrase n'existe pas dans la chanson originale. Freddie Mercury dit juste le Off the World au premier couplet, mais à la fin, il n'y a rien. Il y a juste We are the champions et un fade out. Et ce faux souvenir est tellement puissant que vous sentez que c'est comme si j'ai arrêté la musique un peu trop tôt. Mais c'est pas vrai. Et cette histoire, cette anecdote d'effet Mandela sur We Are The Champions est assez marrante parce que la chanson originale est donc sortie sur un album en 1977, mais on connaît tous le fameux concert live que Queen ont fait en 1985 au Live Aid, qui a été recréé dans le film qui est sorti un peu plus récemment. Et même Mercury va être pris par la pression de la foule de devoir chanter le Off The World, et donc dans la version live, contrairement à la version de l'album, il va continuer sa phrase et faire « We are the champions of the world ». Donc parfois, ces faux souvenirs peuvent même venir réécrire le réel chez les personnes qui ont créé cette mélodie. D'ailleurs, ça me rappelle un dernier effet Mandela que je peux vous soumettre. Imaginez la map monde, il y a l'Australie, j'imagine qu'on arrive tous à mettre l'Australie sur une carte, mais est-ce que vous serez capable de mettre la Nouvelle-Zélande? Est-ce que la Nouvelle-Zélande, par rapport à l'Australie, est en haut à droite ou en bas à droite? Et pour une raison mystérieuse qu'on n'arrive pas vraiment à expliquer, une grande partie d'entre nous imagine la Nouvelle-Zélande en haut à droite de l'Australie, alors qu'elle se trouve en bas à droite. Je vois une grande partie d'entre vous ouvrir leur téléphone, ouvrir Maps pour aller vérifier, et vous allez voir que c'est le cas. Nos souvenirs sont malléables, et on les réécrit en permanence par rapport à qui nous sommes aujourd'hui. Et cela a parfois aussi des vertus. C'est pas toujours une mauvaise chose de réécrire sa vie. C'est comme ça que je dépasse une rupture amoureuse, en réécrivant mon passé, en me disant que la personne avec qui j'étais en couple, en fait, n'était pas si bonne que ça, parce que je viens de réaliser qu'elle m'avait trompé, par exemple. Qu'on réécrit nos souvenirs avec nos meilleurs potes. Par exemple, imaginez que quand j'avais 15-16 ans, je suis allé en vacances avec des personnes que je connaissais pas particulièrement, et que les vacances étaient... ça va. Mais que ces personnes sont devenues meilleures amies. Et maintenant, 20, 25 ans plus tard, on est en train de se remémorer ces vacances-là. On va les réécrire à l'aune de tout ce vécu partagé des 20 dernières années. Et on va se dire que ces vacances, c'était vraiment quand même autre chose que ce qu'on vit aujourd'hui. C'était vraiment, vraiment mieux avant. Ce mieux avant, on l'entend souvent. Tant c'était mieux avant, la jeunesse aujourd'hui. Et très, très souvent, en fait, on est juste en train de s'inventer cette histoire. On est en train d'utiliser cette capacité à réécrire le monde. En vous racontant cette histoire, ça m'a rappelé une autre anecdote. On a trouvé un texte de Socrate qui dit que la jeunesse de son époque allait apporter la fin de la civilisation athénienne. Comme quoi, on voit que c'est pas seulement qu'on a des faux souvenirs, mais parfois, on invente tous les mêmes faux souvenirs. On oublie qu'on était jeune, ou bien on imagine que notre jeunesse était meilleure, était moins décadente, était moins irresponsable que celle de la jeunesse à qui l'on vient. Et peut-être qu'au final, ces clashs générationnels sont juste des films qu'on se raconte parce qu'on a envie de se dire que dans notre jeunesse, on était meilleur que ce qu'on était vraiment. Et ces faux souvenirs peuvent devenir aussi même une source de conflit quand on met en exergue deux personnes, deux groupes sociaux, deux groupes politiques qui se souviennent ou qui veulent réécrire le passé d'un pays. On parle souvent, par exemple, en France, de l'importance de l'identité française, ou de l'identité nationale, ou des choses comme ça, alors même qu'on n'est pas d'accord tous sur quoi. Parce que chacun va réécrire cette histoire d'une manière ou d'une autre. Pour certaines personnes, on ne peut pas parler de l'identité du pays ou de l'histoire du pays sans parler de la colonisation et des affres de cette période sombre de l'histoire. Alors que d'autres vont parler du bilan globalement positif de la colonisation. Pour certaines personnes, nos ancêtres, c'est les Gaulois, et on occulte une grande partie de cette histoire et des mélanges qui sont faits. Cette capacité à réécrire le passé, le fait qu'on ne fonctionne pas comme un ordinateur, que notre passé n'est pas figé, que notre passé est tout le temps en train d'être colorié avec notre présent, avec notre futur, peut être une source de cohésion sociale qui peut faire que plusieurs individus peuvent se fédérer pour faire corps ensemble, ou peut être une source de discorde. On se dit, en fait, on a tellement peu de faux souvenirs en commun qu'on voudrait faire scission, qu'on voudrait plus vivre ensemble, que chacun va devoir s'inventer ses récits. Notre cerveau est un conteur d'histoires, on l'a vu à l'épisode précédent. Et ces histoires sont tout le temps en train d'être écrites et réécrites, même les histoires qui sont déjà finies. Et c'est important de s'en souvenir. Au prochain épisode, on parlera de comment on ne dépend pas juste de soi, on ne dépend pas juste d'un contexte, mais on dépend aussi de notre corps, de certains états dans lesquels nous sommes. Comment est-ce que dans une même situation, je peux un jour réagir d'une manière et le lendemain d'une autre manière? Parce que j'ai faim, parce que je suis stressé. Et on parlera de quand notre cerveau perd les pédales.
Sixième épisode. Votre cerveau perd les pédales. Le facteur stress.
Est-ce que vous avez senti votre cœur s'accélérer? Est-ce que vous avez eu la boule au ventre? Les dents de la mer, thème très connu, culte, nous met un peu tous en tension. Cette tension corporelle qu'on peut ressentir n'est pas anodine. Contrairement à ce qu'on pense, notre cerveau ne fonctionne pas du tout comme un ordinateur qui répète les mêmes opérations. Genre avec un même input, on va avoir les mêmes outputs. Mais on est sujet à plein de facteurs qui viennent moduler comment on fonctionne. Et on a vu certains de ces facteurs au cours des épisodes précédents, que ce soit le contexte, les a priori, etc. Et pour ce dernier épisode, on va parler du grand oublié en psychologie et en neurosciences, notre corps. L'état de notre corps a un impact direct à la manière dont on pense le monde, à la manière dont on intègre le contexte, la manière dont on bouche des trous et tous les mécanismes qu'on a vus jusque-là. Par exemple, en anglais, il y a un mot que j'aime beaucoup qui est un porte-manteau, qui est le mot « hangry ». Le mot « hangry » vient d'une contraction de « hungry » et « angry ». C'est quand on est en colère parce qu'on a faim. Vous pouvez parfois vous disputer avec quelqu'un et penser qu'il y a vraiment un sujet de désaccord, alors que c'est juste que vous n'avez pas bien mangé, ou que la salle est trop froide, ou qu'il fait trop chaud. On peut être irritable parce qu'on n'a pas bien dormi. On peut aussi parler, par exemple, du stress, qu'on appelle le mal des temps modernes. Chaque état corporel influence la manière dont on stabilise l'ambiguïté, la manière dont on se raconte une histoire, la manière dont on intègre le contexte. Par exemple, si quand vous avez faim, vous êtes en colère, quand vous êtes fatigué, vous êtes irritable, quand vous êtes stressé, vous avez plus tendance à faire deux choses. La première, c'est ce qu'on appelle la catastrophisation. Vous avez tendance à imaginer les pires scénarios, à stabiliser l'ambiguïté du futur sur des registres négatifs. Et vous avez une autre tendance à être dans ce qu'on appelle de l'hypervigilance. Tout devient hyper important. Par exemple, vous êtes stressé par une présentation que vous devez faire. Vous allez passer 10 minutes à choisir la police de votre texte ou la taille, de passer de 11 à 12. 12, c'est trop grand. 11, c'est trop petit. Si vous n'étiez pas stressé, vous n'aurez même pas pensé à ces facteurs. Vous aurez juste fait votre contenu, peut-être répété un peu, et vous serez allé. L'état de notre corps conditionne tous les facteurs de reconstruction du monde qu'on a vu jusqu'à maintenant. Il ne suffit pas d'observer notre raisonnement pour comprendre comment on réfléchit. Il faut tout le temps prendre en compte l'état aussi de l'organisme. Nous ne sommes pas un cerveau dans un bocal qui reçoit juste des afférences du reste du corps, comme on aurait pu le croire dans certaines expériences philosophiques. Notre cerveau n'est pas un chef d'orchestre dans une sorte de tour d'ivoire qui dirige le reste de mon corps passivement. Notre cerveau est un organe d'interrelation qui est soumis aux mêmes règles que le reste du corps. Avec Descartes, on avait séparé le corps de l'esprit. Aujourd'hui, cette idée est un peu tombée en désuétude. Il y a de moins en moins de personnes qui pensent qu'on a vraiment une âme qui est en train de contrôler un peu mon corps comme un marionnettiste. Ce système binaire du corps et de l'esprit a été remplacé par une idée tout aussi fallacieuse, qui est la séparation du corps et du cerveau. Que mon cerveau n'obéit pas aux mêmes règles que le reste de mon corps. Mais quand on s'intéresse à comment on fonctionne, on réalise que c'est quelque chose qui est très très important, que l'état physiologique dans lequel je me trouve est un facteur nécessaire pour pouvoir évaluer mon fonctionnement. En gros, il y a deux facteurs, il y a mes compétences, mais il y a aussi l'accès à mes compétences. Et si mes compétences, on pourrait imaginer qu'elles siègent un peu dans mon cerveau, ma connaissance des mathématiques, de la neuroscience, des aires du cerveau, ou d'un langage, ou de n'importe quelle autre compétence. Il y a après l'accès à mes compétences. Je peux avoir un trou de mémoire, je peux être en état d'hypervigilance selon l'état de mon corps. Et cette modulation corporelle peut se faire sur des registres un peu angoissants, anxiogènes, comme la musique des Dents de la Mer, mais on peut aussi faire la même chose à l'inverse. On peut mettre une musique hyper relaxante pour que vous soyez détendu et avoir une autre manière de recevoir l'information que je veux vous transmettre. Et donc, par exemple, on peut écouter se détendre un peu avec ce son suivant. Vous vous sentez mieux, un peu mieux là ? Figurez-vous que cette modulation de nos états corporels n'est pas anodine et souvent utilisée à notre insu parfois pour nous pousser vers tel ou tel registre de réduction de l'ambiguïté, vers tel ou tel registre d'interprétation, parce qu'on peut prédire la manière dont une personne va réagir selon l'état de tension dans laquelle elle se trouve. Comme je vous ai dit, on sait que par exemple dans les troubles anxieux, quand on est stressé, on est dans des mécanismes un peu de survie, c'est pour ça que si vous dites à quelqu'un de stressé, calme-toi, ça se passe en général assez mal, et que si une personne stressée est hyper vigilante et catastrophisante. Mais on peut imaginer d'autres modulations, qu'il y a certains états corporels qui vont vous pousser par exemple à manger plus vite. Et c'est pour ça que dans plusieurs restos de fast-food, on met une musique assez cadencée. Il y a des études qui ont été faites pour voir est-ce que les gens mangent plus vite, donc libèrent la table, et donc je pourrais faire un chiffre d'affaires un peu plus important, ou parfois beaucoup plus important, selon l'ambiance sonore que je crée dans mon resto pour pousser les gens à manger plus ou moins vite. On a tous entendu les génériques du journal de 20h à la télé. C'est pas par hasard que la musique, c'est pas des bols tibétains, qui a le tchut-tchut-tchut-tchut-tchut-tchut, ou quand il y a un flash d'info. Ça crée une sorte de tension, et comme je vous ai dit, quand on est un peu stressé, on est dans une hypervigilance, ça va pousser mon cerveau à se dire « Ah, ce truc est important, il faut que j'y fasse attention ». Là aussi, c'est pas anodin. Ça va moduler la manière dont je vais apprécier les nouvelles de ce qui se passe dans la société, et comment cela va être intégré dans mes modèles mentaux. Pendant longtemps, par exemple, je sais pas, peut-être que ça se fait encore, mais en tout cas, il y a une période, quand je lisais sur ce sujet, les pubs, par exemple, à la télé, dans le mixage des pubs, le volume est tout le temps à 100%. Donc c'est pour ça que parfois vous êtes en train de regarder une série à la télé et le volume n'est pas particulièrement élevé. Quand la pub arrive, vous devez baisser le volume de votre télé, et une fois que la pub est finie, là vous entendez plus très bien, il faut rehausser. Là aussi, parce que ces sons plus forts, avec une musique qui là aussi est assez rythmée, va attirer votre attention pour que le publicitaire se maximise les chances que vous fassiez attention à son produit et éventuellement qu'il puisse vous le vendre. Quand vous êtes en train d'évaluer vos choix, quand vous êtes en train d'évaluer le choix des autres, vos opinions, les opinions des autres, vos comportements, le comportement des autres, rappelez-vous qu'elles ne sont pas le fruit uniquement de vos délibérations, que nous ne sommes pas notre cerveau. Je ne suis pas juste une personne qui reçoit de l'information, qui la traite de manière déconnectée. On pourrait même penser qu'il y a une sorte de capacité cognitive qui est tout le temps en train d'être modulée. Et ça, ça a même des implications pour le système éducatif. Quand je suis en train d'évaluer, par exemple, je vais accepter des personnes sur dossier, et des personnes qui ont les meilleures notes, on va les prendre à la fac, et ceux qui ont de moins bonnes notes, on ne va pas les prendre. On pense que cette méritocratie est un jeu qui est juste. Mais en fait, ce n'est pas vrai, parce que on ne part pas tous du même endroit. Si moi, par exemple, je mange pas très bien, mon lit est moins confortable, je vis dans une maison qui est bruyante, l'accès à mes compétences est désavantagé par rapport à la personne qui fait l'examen à côté de moi, qui, elle, a ses 8 heures de sommeil par nuit, s'hydrate bien, mange bien et étudie dans un environnement qui est plutôt calme. On pourrait penser qu'on devrait même établir ses capacités de restauration cognitive. Comment est-ce que je peux rééquilibrer les manques environnementaux qui impactent ma physiologie pour créer une société un peu plus juste? On n'est pas vraiment en méritocratie parce qu'on ne démarre pas tous du même endroit. C'est comme si je fais courir des athlètes aux Jeux Olympiques et que je leste les jambes de certains participants, et quand ils perdent, je dis bah, « désolé, l'autre était plus rapide que vous ». On ne part pas tous du même endroit, et tant qu'on ne prend pas en compte ces différences contextuelles, d'a priori et corporelles, l'idée d'une certaine justice sociale restera une illusion.
C'était Votre cerveau, première saison, La perception de la réalité, avec Albert Moukébert. Réalisation Charlotte Roux, conseillère au programme Camille Renard, avec la collaboration de Pascaline Bonnet. À la technique, Éric Boisset et Philippe Mercher. Merci à Juliette Lemoine et à Anna Paula Freitas. Vous pouvez retrouver les 6 épisodes de ce podcast original sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.